Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour, merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, je reçois Ludivine Eloi. Alors, bonjour Ludivine.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur en agronomie, docteur en géographie, chargé de recherche au CNRS, à l'UMAART développement, je suppose, à l'Université de Montpellier.
Oui, c'est ça? À l'UMR Art Dev.
Voilà, à l'université donc Paul Valéry. Voilà une petite présentation de vous-même. Vous coopérez en tant que chercheuse au CNRS avec le Brésil, beaucoup. Et donc, pendant. Décrivez-nous peut-être un petit peu ce que vous faites là-bas.
Alors. Moi, je mène des recherches de terrain. Enfin, je suis une géographe de terrain. Donc, je mène des recherches de terrain depuis à peu près 20 ans. Donc, je vais sur le terrain, je fais des enquêtes, je fais des observations. Je discute beaucoup avec les agriculteurs. Et j'ai été accueillie à l'Université de Brasilia pendant une dizaine d'années où j'ai enseigné, j'ai encadré des étudiants. Voilà, je fais des conférences, enfin un métier de chercheur assez varié. Voilà.
Alors pendant 20 ans, vous avez donc travaillé au Brésil sur les rapports entre les politiques environnementales et les systèmes agricoles. Alors notamment dans les savanes du plateau central, alors une région de savane qui couvre environ 20% du territoire brésilien, soit une surface de 4 fois la France, donc c'est énorme, et qui est considérée comme la savane la plus riche en biodiversité du monde. Alors, qu'est-ce que c'est ? Décrivez-nous un peu finalement le milieu où vous avez vécu, cherché pendant 20 ans.
Alors, moi, j'ai travaillé 10 ans en Amazonie et 10 ans dans le Cerrado. Donc, c'est vrai, quand on pense au Brésil, on pense tout de suite à l'Amazonie. Quand on pense à l'environnement, aux questions de déforestation, c'est l'Amazonie, et c'est une grosse question. C'est absolument magnifique, comme vous pouvez imaginer. Mais le Cerrado, qui est donc la savane, qui est juste donc l'écosystème qui est contigu à l'Amazonie, est particulièrement méconnu. Et il est méconnu, il a été considéré pendant des décennies comme un espace voué à la colonisation agricole. Et ce n'est que très récemment, à la fin des années 90, que les écologues commencent à dire « mais attention, il y a beaucoup de biodiversité, etc. » Donc c'est un écosystème qui est reconnu, ils parlent de biome au Brésil, donc c'est un biome qui a été reconnu comme hotspot de biodiversité à la fin des années 90, et ce n'est qu'à la fin des années 90 que des politiques environnementales se mettent en place dans cet écosystème, alors que en Amazonie, ça a commencé dans les années 70-80.
Alors, on va déjà peut-être un peu décrire la différence entre les deux milieux. Oui. Alors, la forêt amazonienne, rappelez-nous, tout le monde sait un peu ce que c'est, parce que c'est un mythe.
Oui, alors, c'est une forêt tropicale, et avec une grande diversité de types de forêts. Les recherches faites avec les Amérindiens savent reconnaître des différences très, très, très fines dans les types de forêts, que je ne vais pas vous détailler maintenant. Mais on dit l'Amazonie, mais en fait, c'est très varié selon le type de sol, le type de climat, parce qu'il y a des changements, des différences de climat au sein de l'Amazonie. L'Amazonie, c'est grand comme l'Europe. Et le Cerrado, en fait, ce sont donc des savanes, donc c'est des savanes arborées, donc avec une strate arborée, voire arbustive, mais c'est des arbres beaucoup moins grands qu'en Amazonie, et beaucoup plus espacés. Et donc il y a une strate herbacée en dessous, et donc ça c'est la grosse partie du Cerrado. Et ensuite, sur les bords des rivières, les ripisylves, ce sont des palmeraies, qu'on appelle au Brésil des veredas, qui sont dominées par un palmier, le palmier buriti, et qui nous indiquent où se trouvent les rivières et les sources des rivières. Et donc, c'est des paysages absolument magnifiques. Voilà.
Voilà, alors donc en fait, on passe d'un paysage de forêt équatoriale, l'Amazonie, à un paysage de savane.
C'est ça.
Hein? Donc, et vous avez passé autant de temps dans l'un que dans l'autre.
C'est ça, et beaucoup, jusqu'à encore il y a une dizaine, quinzaine d'années, certains écologues croyaient que le Cerrado était en fait une forêt dégradée par le feu. Alors qu'en fait, c'est un écosystème naturel, enfin c'est une savane, comme on connaît les savanes en Australie, les savanes en Afrique, c'est une savane tropicale, et voilà, qui a des... En fait, c'est une mosaïque d'écosystèmes, avec des zones qui sont plus forestières et des zones qui sont plus arbustives.
Alors, cette différence entre les deux, elle est due à quoi? Elle est due finalement au problème de l'eau, au problème de la température comment se passe-t-on de la forêt tropicale humide à ce Cerrado, finalement?
Alors, ce qui explique la formation du Cerrado, c'est les sols, le climat. Voilà, on est sur des sols et sur des altitudes différentes. Enfin, c'est les hauts plateaux du Brésil. Donc, c'est des hauts plateaux. Certains disent que c'est le château d'eau du Brésil. C'est de là d'où viennent les sources des huit principaux fleuves d'Amérique du Sud. Et donc, voilà, c'est des sols et un climat, une géologie spécifique qui fait que, voilà, c'est une savane et non pas une forêt tropicale.
Alors, c'est une zone, donc, qui, normalement, est protégée, hein, je suppose. Hein, surtout si on a huit sources de fleuves.
Alors, pas vraiment. Pas vraiment. En fait, c'est une zone vouée essentiellement au développement agricole. Et donc, il y a eu des politiques de conservation depuis la fin des années 90, surtout au début 2000, avec des aires protégées. Mais finalement, les aires protégées ne représentent que 17% de la superficie du Cerrado. Donc, les taux de déforestation dans le Cerrado sont deux fois plus élevés qu'en Amazonie.
Ouais. Et en plus de ça, même s'il y avait des lois de protection, elles ne seraient pas forcément respectées.
Alors, donc, il y a des lois En fait, la grande différence entre le Cerrado et l'Amazonie, c'est que dans le Cerrado, l'essentiel des terres sont des terres privées. Alors qu'en Amazonie, il y a 30% de terres publiques. Donc ça, on pourra en reparler. C'est là où le gros problème de déforestation se passe actuellement. 40% d'aires protégées, avec différents statuts. Quand je dis aires protégées, que j'inclus également les terres indigènes. Et le reste, ce sont des terres privées, voilà, où s'applique le code forestier. Mais dans le Cerrado, c'est essentiellement des terres privées où s'applique le code forestier. Sauf que pour le code concernant le code forestier, le code forestier stipule que les propriétaires privés doivent protéger une partie de leur propriété en végétation naturelle. C'est ce qu'on appelle la réserve légale. En Amazonie, la réserve légale, c'est 80% de la propriété. Dans le Cerrado, c'est 20%. Donc, il y a des règles, sauf qu'elles sont beaucoup plus flexibles pour le Cerrado, qui n'est pas considéré historiquement comme un espace à protéger. Enfin, disons, beaucoup moins que l'Amazonie.
Donc, cet espace a été cultivé depuis longtemps déjà.
Oui, oui.
C'est pour ça. Donc, finalement, la protection est très difficile à mettre en place. Hein.
Disons que les premiers, on va dire, les premières vagues de colonisation, c'était pour essentiellement mettre en place des systèmes d'élevage. Et de plus en plus, en fait, c'est les monocultures qui avancent dans cet écosystème, dans ce biome, essentiellement pâturage, canne à sucre. Et depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, c'est maintenant le soja, le coton, le maïs. Et donc, avec des taux de déforestation records, voilà.
Alors, je suppose qu'on est sur une agriculture, là, de type industriel.
Exactement.
On est réellement sur des espaces immenses.
Voilà, donc, c'est si vous voulez, par exemple, pour vous donner un exemple, le Cerrado a battu, enfin, on a le record de déboisement en 2023, là, entre le mois de janvier et d'avril. 2200 km² déboisés, ça équivaut à 4 fois l'agglomération de Montpellier en 3 mois, et contre 288 km² en Amazonie. Donc pour vous donner un peu les ordres de grandeur. Et ce qui est intéressant, au Brésil, c'est que sur toutes les zones qui ont été déforestées, on va dire depuis 1985, c'est 82 millions d'hectares qui ont été déboisés, de végétation naturelle perdue au Brésil. Sur ces 82 millions d'hectares, 86% sont dans la moitié nord du Brésil, c'est-à-dire Cerrado et Amazonie. Mais paradoxalement, c'est dans ces zones-là, à moitié nord du Brésil, qu'on a l'essentiel des parcs, en fait, et des terres indigènes. Et donc, ce sont des zones où on se retrouve dans des situations particulièrement paradoxales, où on a des aires protégées extrêmement grandes, amples, qui sont le résultat de politiques très fortes de conservation, etc., avec différents types de financements, des mobilisations internationales, nationales, locales, et en même temps qui, de plus en plus, sont entourées de zones déboisées. Donc, c'est ça que j'étudie, en fait. C'est cette cohabitation entre destruction et conservation.
Bien, alors, donc là, justement, vous êtes à un instant paradoxal entre, entre les deux. C'est presque deux époques, finalement, qui se télescopent.
C'est ça. Alors, c'est ça qui est intéressant. Enfin, c'est intéressant de l'étudier comme géographe. Parce que, par exemple, si on prend la plus grande terre indigène du Brésil, c'est la terre indigène du Xingu, qui se trouve dans une zone de transition entre le Cerrado et l'Amazonie. Elle a été délimitée dans les années 60, à l'époque où cette région-là, c'est dans le Mato Grosso et Pará, ce n'était pas encore une zone de frontière agricole. Et donc, ils ont délimité dans les années 60, c'était une des premières grandes terres indigènes délimitées. C'est toute la lutte des Kayapo, etc., de Raoni, en fait, c'est la terre indigène de Raoni. Ils l'ont délimité de manière avec des traits droits. Enfin, comment dire ?
Oui, des fausses frontières.
Elle a été délimitée à la hache, sur une carte faite à la main.
Oui, comme on a fait les délimitations en Afrique et ailleurs, sans tenir compte de la géographie.
Exactement, et sans tenir compte du bassin versant. Voilà. Et aujourd'hui, on voit les cartes. Donc aujourd'hui, on a cette aire indigène qui, à l'intérieur, est complètement vert. Enfin, c'est un carré vert. Enfin, vous voyez le sud de cette aire indigène. Et toutes les sources des rivières de ce fleuve Xingu, toutes les sources sont à l'extérieur de la terre indigène et sont toutes déboisées. Donc tout ça remet vraiment en question finalement qu'est-ce qu'on fait en fait finalement ces terres indigènes deviennent des îles de biodiversité.
Vous remettez presque en cause la manière dont c'est mené. La protection, c'est-à-dire que ça a été une maladaptation, finalement.
Disons que c'était la meilleure chose à faire à ce moment-là, mais en même temps...
Et pourquoi c'était la meilleure chose à faire, quand même,
ensemble-là ? Parce que c'était la seule façon de garantir un territoire pour des peuples amérindiens, à l'époque, qui commençaient déjà à souffrir d'épidémies, etc., et qui n'avaient... C'est la seule façon qu'ils ont d'avoir des terres. Voilà. Donc, c'est une façon de garder des terres et de protéger, puisque c'est la meilleure façon de protéger la forêt, ça a été démontré dans plein d'articles, c'est de faire des terres indigènes ou des aires protégées qui incluent les populations locales dans leur fonctionnement.
Mais on avait mal compris, finalement, le fonctionnement de l'écosystème.
Exactement.
Voilà.
Et donc, tout ça relie le problème. On voit aujourd'hui le problème de la...
C'est un peu le problème des années 60-70 dans le monde entier. C'est-à-dire, on n'avait pas assez de connaissances écologiques, hein, en gros.
Voilà, et on a tendance à séparer les problèmes de déboisement, des problèmes d'eau et des problèmes d'incendie. Alors qu'en fait, ces trois choses sont complètement liées, en vérité. Et donc, pour les problèmes d'incendie, j'en reviens à la terre indigène du Xingu, que je ne connais pas très très bien par ailleurs, mais ce dont j'ai entendu parler, c'est que j'ai vu des images satellites, c'est que finalement, même si la terre, à l'intérieur, la forêt est préservée, en fait... elle est tellement déboisée autour que la forêt est beaucoup plus sèche et beaucoup plus sensible aux incendies. Et donc, le feu se comporte de manière complètement différente depuis quelques années qu'avant.
Et c'est sans doute lié aussi à l'eau, c'est-à-dire que...
Voilà, c'est ça, c'est l'assèchement de l'écosystème.
Enfin, on voit quelques vidéos sur YouTube, par exemple, où les gros agriculteurs du Cerrado pompent l'eau directement dans le fleuve.
C'est ça. Donc c'est l'assèchement de plus en plus en fait avec le réchauffement climatique et avec l'assèchement, la saison sèche est de plus en plus longue au Brésil et donc le secteur de l'agribusiness a de plus en plus tendance à faire des retenues d'eau, des barrages, des petits barrages ou alors à pomper l'eau directement. Ils ont des droits d'eau, donc ça on pourra en reparler après, mais en tout cas ça contribue à assécher l'écosystème.
Non mais parlons-en maintenant, qu'est-ce que c'est que ces droits d'eau et voilà. Et alors comment ça fonctionne?
Alors ça c'est Donc ça, c'est un sujet sur lequel j'ai commencé à travailler récemment parce que, justement, je discutais avec... Enfin, je faisais un atelier avec des agriculteurs, des paysans, enfin, des agriculteurs familiaux dans l'ouest de l'État de Bahia, là où il y a eu des gros problèmes de violence liés à l'expropriation, des problèmes de conflits fonciers. Et il m'avait invité pour travailler sur le feu, pour réfléchir aux questions de feu, justement de comment on utilise ou on étudie les savoirs locaux sur le feu pour essayer d'intégrer les savoirs locaux des populations dans la gestion du feu, puisque finalement...
Alors ça, on va en reparler plus longuement, d'ailleurs.
Voilà, finalement, interdire complètement le feu, en fait, c'est la meilleure façon d'avoir des incendies. Donc, on discutait là-dessus, et en fait, je me suis rendu compte que la question d'eau est au centre de tous leurs problèmes, et qu'en fait, c'est évident. Je veux dire, sans eau, il n'y a pas de biodiversité, sans eau, et il n'y a plus d'incendies. Mais, du coup, ils m'ont incité à travailler plus sur cette question. Donc, avec des associations locales et des ONG, on a commencé à essayer de rassembler les informations sur, finalement, qui avait des droits d'eau dans la région. Et alors, il y avait un gros problème de transparence. Finalement, on a monté des bases de données. On s'est rendu compte, on a travaillé avec des journalistes, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a très peu d'entreprises qui... c'est une poignée d'entreprises qui obtient des droits d'eau. Donc, en fait, elles pompent dans la rivière de manière complètement légale. Il faut savoir qu'au Brésil, le secteur agricole consomme près de 80% de l'eau du pays. Et dans cette région-là, du ouest de la Bahia...
C'est pas le seul pays du monde, d'ailleurs.
Voilà. C'est ça. Et dans l'ouest de la Bahia, en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'au Brésil, ça prend des dimensions absolument incroyables. C'est-à-dire que c'est des pivots centraux de 1 km de diamètre et il y a des entreprises qui en ont 50. Voilà. Il y a c'est des entreprises agricoles qui ont entre 80 000 et 200 000 hectares et qui, sur chaque exploitation, a une vingtaine, une trentaine de pivots. Et ça,
ce que vous appelez les pivots, c'est chez nous les arroseurs.
Voilà,
c'est des arroseurs en rond.
C'est des cercles, voilà. Ce qu'on voyait avant dans le Moyen-Orient. Voilà, ouais. C'est ça qui se passe dans le Cerrado. Et donc, si on comptabilise tous les droits d'eau qui ont été octroyés aux entreprises dans cette région, que dans l'ouest de l'État de Bahia, on obtient 1,8 milliard de litres d'eau par jour. C'est l'équivalent de ce que consomme la ville de Pékin. Donc, une entreprise, par exemple, dans l'ouest de la Bahia, a le droit de pompage d'eau de 467 millions de litres par jour. C'est-à-dire l'équivalent, une entreprise à l'équivalent de ce que consomme la ville de Salvador de Bahia, qui a 2,9 millions d'habitants. Donc je pense qu'au Brésil, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est les inégalités, en fait, en termes de, d'accès aux ressources, qui ne font qu'augmenter. En fait, avec ces problèmes de rareté croissante des ressources, l'inégalité augmente également.
Alors, on est en train, je crois, un peu à travers le monde entier, de rencontrer cette difficulté, puisque on est aujourd'hui à une confrontation, finalement. Jusqu'à présent, le partage de l'eau se faisait sans trop de problèmes. Enfin, vous avez évoqué quelques petits conflits, mais c'était quand même sans trop de problèmes. Et on sait qu'avec le réchauffement climatique, ça va devenir, au contraire, un énorme problème. Donc, aujourd'hui, ces conflits sont appelés à se multiplier. Et quand vous revenez en France, vous revenez aussi pour voir la situation. Et la situation française, alors bien sûr, c'est pas l'échelle que vous avez rencontrée au Brésil, mais est-ce qu'elle a quelques similitudes?
Oui, alors je vais commencer à travailler en France, donc je ne peux pas trop m'exprimer, mais d'après ce qui est intéressant quand on est géographe, c'est d'essayer de comprendre un peu l'histoire de l'aménagement de ces espaces. Par exemple, un endroit où il n'y a plus d'eau, évidemment, les gens qui disent « Ah, mais c'est à cause d'un tel, c'est à cause d'un tel, c'est à cause d'un tel », on sait bien sûr que c'est beaucoup plus compliqué et qu'il faut étudier un petit peu l'histoire, parce que finalement, ces rivières ont été aménagées, l'agriculture a changé certainement, les technologies de pompage ont évolué, et il y a le changement climatique au milieu de tout ça. Mais je trouve que moi, j'entends beaucoup de choses sur le changement climatique et on a tendance à vouloir tout expliquer par le changement climatique et à oublier les usages de l'eau pour l'agriculture, par exemple, l'agriculture irriguée. Donc, quand on voit, par exemple, en Occitanie, notamment, le développement de monocultures, hein, dans le Gers, par exemple, qui sont de plus en, enfin avec le recours de plus en plus à l'irrigation, on ne peut pas le déconnecter, à mon avis. Enfin, je vais étudier un petit peu plus, mais quand on parle de problème d'eau, il ne faut pas oublier l'agriculture et la même chose pour les incendies. Je veux dire, si les écosystèmes s'assèchent, s'il y a plus d'incendies, il y a un rapport avec l'eau.
Alors, effectivement, on s'en est aperçu, puisque quand il y a eu le grand incendie dans les Pyrénées-Orientales, là, au mois d'avril, enfin mars-avril, c'est-à-dire à une époque où jamais auparavant, on attend les incendies plutôt en juillet-août, donc on ne les attend pas si tôt, et on s'est aperçu que, comme il y avait eu une sécheresse extrêmement importante pendant cet hiver, on avait, pour les problèmes d'incendie, justement des difficultés d'approvisionnement en eau. Donc, ça conforte ce que vous êtes en train de dire. Alors, vous êtes revenu quand même avec... Vous avez beaucoup étudié au Brésil la gestion des feux. Donc, revenons un peu sur cette gestion des feux. Finalement, les anciens... vous n'aimez pas trop... Enfin, les gens localement ont l'habitude de gérer correctement les feux.
Oui, alors... Alors, il y a un débat entre les écologues, parce que certains écologues disent « Mais attendez, les feux, c'est quand même depuis la colonisation. » Donc... Avant la colonisation, il y avait un usage du feu essentiellement pour l'agriculture sur brûlis par les populations amérindiennes, mais c'était vraiment sur des... Et pour la chasse dans ces savanes-là, mais c'était vraiment des feux très, très restreints. Et il y avait quelques incendies provoqués par des causes naturelles, des éclairs, etc., à la fin de la saison sèche. Et en fait, avec la colonisation, est arrivée, donc surtout par l'élevage bovin extensif, une pratique d'un feu pastoral et qui ressemble finalement beaucoup à ce qu'on voit dans d'autres régions de savane où il y a de l'élevage pastoral ou même de zones méditerranéennes où les éleveurs brûlent par petits morceaux. C'est ce qu'on appelle les brûlis en mosaïque. C'est-à-dire que les éleveurs brûlent différents types de végétation à différents moments de l'année, ce qui permet d'avoir ce que certains appellent une pyrodiversité. C'est-à-dire qu'on a une diversité d'écosystèmes qui n'ont pas la même biomasse, la même inflammabilité. Voilà. Et donc, du coup, ce qui permet d'éviter des gros incendies. Parce que le gros risque, c'est que de toutes les façons, aujourd'hui, avec la sécheresse accrue et la population qui est là, qui circule, les routes, etc., il y aura toujours des sources d'ignition.
Il y aura toujours des départs de feu.
Voilà. Et donc maintenant, dans les conditions actuelles, le risque, c'est justement d'interdire l'usage du feu dans des espaces qui sont où il y a eu une histoire de feu et donc une histoire de diminution du combustible. Et le problème, c'est que dans ces savanes-là, il pleut beaucoup en saison des pluies. Donc il y a une grosse production d'herbacées sèches. Et donc, si on interdit l'usage du feu, ça fait en fait une grosse masse de combustible sec, sèche. Et c'est ce qui se passe exactement également dans les zones méditerranéennes.
Alors, dans les zones méditerranéennes, on va mettre en place aujourd'hui, enfin, on s'aperçoit, les pompiers nous disent, on va faire des contre-feux. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on avait... on connaissait bien sûr, mais les paysans savent ce que c'est qu'un contre-feu.
Alors, je pense que
ils savent ce que c'est qu'un écobuage, etc. Mais subitement, ça devient une règle du jeu pour les pompiers. Exact. Donc,
C'est ce qu'on appelle les brûlis dirigés. En fait, l'idée d'un brûlis dirigé, c'est de brûler au bon moment. Généralement en début de saison sèche, enfin en début d'été ou en fin d'hiver, pour pouvoir diminuer la biomasse, ce qu'on ferait avec un débroussailleur, c'est plus rapide. Et ensuite, donc, pour éviter les incendies. Donc toute la question, c'est finalement comment les pompiers s'intègrent avec les éleveurs ou avec les habitants pour pouvoir faire ces feux. Et c'est des feux qui parfois sont très mal compris par la population locale qui n'est pas agriculteur et qui ne comprend pas pourquoi ça brûle. Alors qu'en fait,
souvent, qui ne comprend surtout pas pourquoi c'est les pompiers qui allument le feu.
C'est ça. Alors qu'en fait, c'est parce que aussi parce qu'il y a eu beaucoup d'exode rural et qu'il y a beaucoup moins d'éleveurs. Et que les éleveurs ont beaucoup moins besoin, finalement, ils ont beaucoup moins besoin de ces brûlis pour alimenter leurs animaux, parce que de plus en plus, ces animaux sont alimentés par, par le foin, par des aliments qui sont cultivés ou qui sont par des apports alimentaires extérieurs. Donc finalement, c'est notre rôle en tant que chercheur, c'est de comprendre comment, quelle est la place du feu dans leurs pratiques et finalement comment faire pour que les pratiques des éleveurs soient en accord, en synergie avec les besoins, on va dire, des pompiers.
Mais vous évoquez les pasteurs, les éleveurs, hein, en fait. Quiconque avait un petit verger ou quiconque avait des broussailles autour de sa maison savait faire ce genre de choses.
Oui, et maintenant, c'est de plus en plus interdit. Donc, c'est ça la question. Donc, de plus en plus, on a recours. Et puis, alors, on a recours au débroussaillage.
Donc, c'est interdit, on a perdu la pratique.
D'une certaine façon, oui, certains disent que c'est ça qui s'est passé.
Alors, vous retrouvez donc, en tant que chercheuse, entre ce discours officiel... des lois, etc. Mmh. Et puis, en fait, des savoir-faire qui se perdent. Donc, comment faites-vous ?
Alors, à nouveau, donc, je ne peux pas trop parler de l'Occitanie parce que je vais commencer. Donc, voilà, je ne peux pas trop m'avancer. Mais en tout cas, ce qu'on a fait dans le Cerrado, c'est d'abord de discuter avec les éleveurs, de les accompagner dans leur travail, de cartographier les lieux qu'ils brûlent. Pour essayer de spatialiser un peu leurs pratiques, parce que sinon, et pour essayer de différencier des pratiques au sein, essayer de comprendre les différents types d'éleveurs, leurs intérêts économiques, essayer de comprendre un petit peu, parce qu'on ne peut pas dire les éleveurs, on ne peut pas dire les communautés, il faut essayer de comprendre les différences et pourquoi certains font comme ça, pourquoi certains font comme d'autres, pourquoi certains brûlent.
Et c'est ce que vous allez tenter de faire maintenant en Occitanie,
bon, je vais accompagner une étudiante et je vais voir si je peux aider à quelque chose. Après, c'est des conditions complètement différentes. On va essayer de travailler un peu avec le parc national des Cévennes, mais je ne sais pas du tout ce que ça va donner.
Mais l'objectif, c'est un peu celui-là, quand même.
Oui, l'objectif, c'est de comprendre finalement la place des brûlis dans ces pratiques agro-pastorales et comment ces pratiques-là sont prises en compte par les pompiers, les services en charge de la gestion des feux.
Donc là, on va avoir un travail que vous allez mener sur la gestion des feux, mais en même temps, vous allez travailler un petit peu aussi sur la problématique de l'eau.
J'aimerais bien, oui.
Parce que pour vous, c'est lié.
Pour moi, c'est lié, exactement. Et je trouve que on a tendance, alors c'est sûrement lié aux spécialités scientifiques, mais on a tendance, voyez, chaque problème environnemental est traité par une science séparée. Donc la déforestation, c'est les géomaticiens et les sciences forestières. L'eau, c'est les hydrologues. Le feu, c'est les écologues du feu et les pompiers. Alors qu'en fait, les agriculteurs, eux, sont confrontés à ces problèmes en même temps, dans les mêmes espaces, au cours de l'année, et eux font les liens.
Et aujourd'hui, ce n'est pas en train d'évoluer, parce que quand même, depuis le GIEC, on sait que tout cela est systémique.
Oui, oui.
Donc, la recherche s'y met difficilement, finalement.
Alors... La recherche s'y met quand même. Il y a ce qu'on appelle les sciences de la durabilité ou la transdisciplinarité, c'est-à-dire essayer de travailler en collectif entre chercheurs et gestionnaires de politique publique et agriculteurs pour essayer de comprendre ensemble les problèmes. Donc il y a beaucoup d'expériences et de projets très intéressants. Voilà. Donc,
bon, en tout cas, Ludivine et Éloi, on vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de chance pour cette nouvelle approche en territoire. C'est dans quel lieu exactement vous allez mener votre...
Je vais aller la semaine prochaine en Lozère, sur le Mont Lozère. Voilà. Mais après, je ne sais pas si je vais développer des recherches dans d'autres lieux.
Bon, ouais. On vous retrouvera donc plus tard.
Merci.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.